Alors aujourd'hui, ça a été, c'est bien parce qu'à chaque fois, c'est bien introduit par le temps d'adoration et ce que nous dit le Père Giton. Donc aujourd'hui, on parle de. Donc on est dans le deuxième chapitre de la vie publique. On a suivi un peu la vie de Jésus. Premier cours, c'était plutôt l'historique. Après, on a fait le début, quoi. Voilà. Et puis, la fois dernière, on a brossé le tableau de la vie publique. Je te ferai passer les cours des dernières fois. Et aujourd'hui, on focalise plus précisément sur l'enseignement et les miracles. Et puis, la fois prochaine, on focalisera sur l'appel des disciples l'instauration de l'Église. Donc, du coup, il y a plusieurs choses. Voilà. Donc, déjà, c'est vraiment le début des évangiles. Donc, celui de Marc ou Matthieu en chapitre 4, parce qu'il faut le temps qu'il démarre, puisqu'il y a les évangiles de l'enfance avant. Il parcourait toute la Galilée, enseignant dans leur synagogue, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute langueur parmi le peuple. Donc, on a un bon résumé de ce qu'a fait Jésus. Voilà. Donc, on a bien l'enseignement. La proclamation de l'évangile du royaume et la guérison des maladies et des langueurs, de tout. Donc, c'est vraiment le résumé. Jésus, il a enseigné et il a guéri. Et en fait, on voit que les évangiles, ils alternent discours et sections narratives, notamment l'évangile de Matthieu, qui est très construit autour de discours. On verra ça tout à l'heure. Et on a vraiment, à travers les évangiles, on voit que Jésus, mais à travers aussi même le reste du Nouveau Testament, on voit que Jésus a fait de nombreux enseignements. Pourtant, Jésus n'a rien écrit de lui-même, hein, donc ça en est clair, à part devant la femme adultère sur le sable. Mais bon, ça n'a pas resté. Donc, il n'a pas écrit, mais en même temps, les évangélistes ont écrit sur lui et des personnes ont partagé ce qu'ils ont fait. Alors, c'est vrai que depuis deux siècles, il y a beaucoup de remises en cause de cet enseignement, en disant, mais est-ce que c'est vraiment les paroles de Jésus? Est-ce que ce n'est pas été reconstitué a posteriori, etc., etc. Ce qu'on peut voir, c'est quand même que les quatre évangiles, ils portent vraiment un même regard sur Jésus. Il y a énormément de... Voilà, ils dressent une personne, et ils dressent notamment dans la thématique de l'enseignement ou des miracles. On voit quand même une grande unité et une très forte cohérence. Et puis en plus, il faut savoir que la transmission orale, de nos jours, elle paraît assez suspecte parce qu'on est très culture de l'écrit, alors culture de l'image aussi, mais en tout cas pour l'apprentissage, on est très sur l'écrit. Mais à l'époque, c'était une culture beaucoup plus orale. Et on peut penser que les apôtres ont vraiment écouté Jésus et qu'ils ont essayé de reproduire ses paroles, même s'ils les ont comprises après coup, et qu'on voit que certains évangélistes les ont rassemblées d'une façon différente. Donc on a Jean qui est beaucoup plus chronologique et qui a essayé de suivre le déroulé. Et les autres, parfois, ils ont rassemblé un certain nombre de discours qui probablement n'ont pas eu lieu tous à ce même moment-là. Voilà. Mais ça n'enlève rien à la crédibilité de ce qui est enseigné, de ce qui est traduit. Et on pense même, il y a certaines paroles qui sont assez similaires. Il y a une façon de parler de Jésus. On va voir aussi que c'est vraiment des vraies paroles de Jésus et qu'on peut penser que c'est des paroles qu'il a dites. Voilà. Et clairement, s'il n'y avait pas eu ces paroles retranscrites, on n'aurait pas le christianisme qui serait né. C'est un peu comme les anges qui ont annoncé aux bergers qu'il y avait quelque chose d'incroyable à la crèche. Sinon, il n'y aurait rien eu et c'était un enfant qui était né, personne ne saurait rien, en fait. C'est un peu pareil avec les paroles de Jésus. Si on ne les avait pas, on ne saurait pas. Alors, ce qui est encore plus incontestable, c'est la partie miracle, puisque les guérisons sont quelque chose que les non-chrétiens retiennent de lui. C'est ce que Flavius Joseph a noté. Voilà, il faisait beaucoup de guérisons. Et voilà. Donc ça, c'est de notoriété publique, y compris au-delà des évangiles. Alors, ce qu'on peut voir, c'est quand même qu'il y en a d'autres qui ont enseigné, d'autres qui ont fait des guérisons. Jésus n'a pas le monopole ni de l'enseignement, ni des guérisons. Et donc, on va essayer de retracer qu'est-ce qui fait que c'est différent, qu'est-ce qui rend différent la manière de faire, dans sa manière de dire ou de faire. Et puis dans ce qu'il a annoncé ou la façon dont il se présente lui-même. Voilà, puisque c'est les trois grands aspects. Alors, il y aurait des milliers de choses à dire en plus. Donc, j'ai choisi, et encore pas assez puisque c'est assez long, j'ai choisi un certain nombre de thématiques. Alors d'abord, on va se focaliser sur la pédagogie de Jésus. Parce que c'est intéressant de voir comment Jésus a fait, la manière de faire de Jésus. Parce que ça nous dit quelque chose aussi de la personne de Jésus. Alors, manifestement, les enseignements de Jésus pouvaient durer des heures. Dans le récit de la multiplication des pains, on dit, après avoir écouté tout ça, ils étaient épuisés et la nuit était venue et il fallait qu'ils n'avaient pas mangé depuis 3 jours. Donc, un peu long l'enseignement. Alors, peut-être que le 3 jours est exagéré, mais en tout cas, c'était pas une demi-heure en passant. Voilà. Pour probablement aussi que comme il y avait de la retransmission et c'était pas un discours d'un bloc et qu'il y avait des choses qui se déroulaient dans le temps. Il y a aussi les discours qu'on voit, sont certains pour les foules, donc comme au moment de la multiplication des pains. D'autres qui étaient pour les disciples. D'autres pour les disciples, et puis, ou pour les apôtres, d'autres pour une personne spécifique, quand on voit l'échange avec, par exemple, la Samaritaine, voilà, ou Nicodème, où il y a juste Nicodème et Philippe qui sont là. Donc, voilà, il y a des discours. Donc c'est plein de formes de discours. L'évangile de Matthieu, donc, je vous le disais, il est construit autour de 5 discours. Donc, lui, c'est vraiment la structuration de tout l'évangile de Matthieu, c'est autour des discours. Donc, le sermon sur la montagne. Grosse partie. Le discours apostolique, donc là c'est plus en direction des apôtres sur qu'est-ce que c'est que disciples. Le discours parabolique, où là il y a énormément de paraboles. Le discours ecclésiastique, là on est plus dans la dimension de tout ce qui va tourner autour de la constitution de l'Église. Et puis le discours eschatologique sur la fin des temps. Donc en fait, on peut faire un parallèle de presque chaque discours dans l'évangile selon Marc ou l'évangile selon Luc, mais en plus rapide en général. Je vous ai mis en annexe, une première annexe avec les paraboles, et là vous avez la comparaison entre les trois synoptiques. Ça vous dit une idée du nombre de choses qui sont cohérentes entre chacun, et puis du nombre de paraboles aussi. Et après vous aurez la même chose sur les miracles, avec évidemment l'évangile de Jean en plus. On verra que les paraboles ne sont pas dans Jean. Voilà. Donc ça c'est pour vous montrer aussi la cohérence, et puis ça permet, c'est le principe du synoptique, c'est de comparer alors. Faisons-le. Donc, je vous ai, au moins que vous avez toutes les informations. Donc, l'évangile de Jean, lui, il est donc plus chronologique, comme je vous le disais, et les discours sont très entrecoupés de dialogues. Donc, c'est pas un discours ex cathedra, c'est plutôt des échanges. Et puis, il y a des actions au passage. Donc, comme on est dans le temps, dans une chronologie, c'est pas un grand discours avec plein de choses. Et puis après, on passe au miracle, et puis après on passe. Non, c'est plus imbriqué chez Jean. Mais on peut remarquer quand même un certain nombre de discours. Donc le discours à Nicodème, qui est relativement court, Jean 3. Le discours du pain de vie, beaucoup plus long, Jean 6. Le discours polémique, donc là c'est avec les pharisiens, les sadducéens et tout ça, là, donc ils discutent beaucoup, Jean 8. Et puis évidemment le long discours après la scène, donc là on a carrément 5 chapitres. Pareil, il y a du dialogue hein, dans ce discours après la scène. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que le langage de Jésus, il est imagé et qu'on a des images qui sont souvent prises dans la nature. Vous avez la semence, vous avez la vigne, vous avez le lys des champs, le grain de blé, les épis, le figuier, le sel. Bon, j'en ai sûrement oublié. De même, Jésus cite de nombreux animaux. Alors là, vous avez là un petit florilège. D'ailleurs, j'aime bien les vers. Ça se termine par les vers et les mythes hein, quand même. Donc, vous avez tous les animaux, sans exception, les scorpions, les voilà. Vous pouvez vous amuser à retrouver où c'est tous ces animaux-là. Et vous avez un livre pour plutôt ados ou enfants qui vous dit le bestiaire de la Bible et notamment aussi des évangiles. Et c'est vrai que c'est rigolo de voir le nombre d'images qu'il y a sur de transpositions. Il parle aussi de la pluie, du soleil, alors pas de la pluie du beau temps, mais presque, des astres. Voilà, donc il y a vraiment cet ancrage dans la nature, dans le cosmos, et c'est pas du tout hors sol. Alors Jésus utilise, je vous ai mis le mot parce que comme il est très joli, je me suis dit que j'allais le placer, c'est peut-être la seule fois de ma vie où je le placerai, des apophthegmes, très joli mot, en fait qui veut dire des maximes, voilà, pour marquer ses interlocuteurs. Donc il y a aussi une pédagogie qui essayait de mettre on va le voir après, du relief aussi, mais de. Voilà, d'avoir des choses qui se retiennent facilement. C'est aussi pour ça qu'on peut se dire que les discours de Jésus, ils étaient faciles à retenir. Parce qu'entre les paraboles qu'on va voir juste après, les images, les petites phrases comme ça, la vérité vous rendra libre, les choses comme ça, c'est quand même assez plus facile de retenir que des choses très compliquées. Donc, je vous en citais deux. Et puis, il y a donc ces maintes fois où Jésus utilise la formule « Amen, Amen, je vous le dis ». Alors, c'est dans Saint Jean, dans les synoptiques, c'est plutôt « Amen, je vous le dis », il n'y a pas le doublé « Amen », qu'on a souvent traduit par « en vérité, je vous le dis », pourquoi pas. Et en fait, à chaque fois, ça introduit quelque chose d'important. Donc, c'est un peu comme un point d'attention. « Attention, je vais dire quelque chose d'important ». Donc, ça arrive quand même 75 fois, donc il dit souvent des choses importantes. Et l'idée, c'est que ça concerne souvent derrière la vie immédiate, la vie éternelle. Voilà, ça concerne vraiment quelque chose qui est crucial. Voilà. Et après, on peut noter que Jésus utilise peu le nom de Dieu. Et là, il est en très forte condescendance avec les Juifs qui s'interdisaient de prononcer le nom de Dieu. Et donc, il utilise aussi un passif divin. « Ceci a été dit, ne jugez pas et vous ne serez pas jugés », sous-entendu par Dieu, évidemment. Donc voilà, donc, il est très en lien. Voilà un peu des choses qu'on peut remarquer de la façon dont Jésus enseigne. Alors évidemment, les paraboles constituent sans aucun doute la forme privilégiée de la prédication de Jésus, puisque dans les trois synoptiques, on a énormément de paraboles. Et que c'est même un principe, puisque Marc, en 4.2, nous dit « Il leur enseignait beaucoup de choses en paraboles ». Donc c'est même c'est répertorié comme étant sa façon de faire. Donc on en compte une quarantaine. Alors selon qu'on les découpe, qu'on les découpe pas, vous pouvez monter à 46, descendre à 35. Enfin bref, on va pas épiloguer. À noter que l'évangile de Jean n'en rapporte pas. On verra après comment lui, il utilise d'autres façons de faire. Alors, ce n'était pas complètement inconnu. Les rabbins utilisaient des comparaisons, qu'on appelle machal en hébreu, pour comparer des choses, pour leur enseignement. Mais là, on a un vrai usage vraiment spécifique et beaucoup plus large de l'usage des paraboles par Jésus. Parce que ce n'est pas juste une instruction avec une morale à la fin. Ce n'est pas les fables de La Fontaine. Mais c'est vraiment... Il y a une fine pointe et elles sont quasiment toutes dirigées, c'est ça qu'on va voir, sur le royaume de Dieu. Donc vraiment, c'est le message crucial. Donc c'est pas juste pour dire des choses de type moralisante ou ce serait mieux de faire comme ça ou raconter des histoires. Il y a vraiment quelque chose, c'est un message fort. Joachim Jeremias, qui est un Allemand qui a beaucoup travaillé a écrit une œuvre sur les paraboles de Jésus, note le tour très personnel des paraboles de Jésus, leur clarté, leur simplicité unique et la maîtrise incomparable de leur construction. Et en même temps, elles sont assez variées. Hein. Il n'y a pas un modèle standard. Jésus n'est jamais standard. On le verra aussi dans les miracles. Donc on a vraiment les particularités du langage. On a beaucoup cette notion de très imagée, très concrète. Aussi de les façons de faire de la langue araméenne. Et donc on a vraiment... On peut comprendre comment Jésus vivait, Jésus parlait. Ça nous dit beaucoup de choses de Jésus, cette manière de raconter les choses et de dire les choses. Voilà. L'autre point, c'est que ces histoires, elles paraissent très simples, mais en fait, souvent, elles sont difficilement juste... on ne peut pas juste les garder au niveau... au premier niveau, quoi. On est obligé d'aller plus loin. Et elles interrogent plutôt qu'elles n'éclairent. Elles ne sont pas toujours... complètement très entendable et compréhensible du premier coup. D'ailleurs, les apôtres auront même demandé à un moment donné, explique-nous, ils ont demandé des explications sur deux paraboles. Donc on a deux paraboles expliquées, comme quoi c'était pas si simple que ça, et pourtant ça nous paraît pas les plus... Évidemment, maintenant on a l'explication de Jésus, alors ça nous paraît pas si compliqué que ça, mais sur les autres, parfois, elles sont pas si lucides que ça. Si vous pensez au le vin dans les vieilles outres et le vin jeune qui fait éclater les outres, bon, vous pouvez... Comment vous l'interprétez? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? On peut en déduire plein de choses. C'est pas si comme ça du premier coup, quoi. C'est pas si évident que ça. Et on n'est pas sûr à chaque fois de l'interprétation. Donc l'idée, c'est justement de nous parler de Dieu et donc d'élargir notre spectre et donc pas juste de se renfermer avec une sorte de blanc ou noir. Et surtout d'éviter une interprétation moralisante, même s'il y a une dimension de comment on reçoit les choses et comment on va cheminer avec ça. Et puis, on peut faire le parallèle entre les paraboles qui s'éclairent avec le contexte de sa propre vie. Donc, ceux qui écoutaient Jésus, ils voyaient aussi comment il vivait. Et donc, ils faisaient aussi un parallèle. Donc, ça aussi, c'est une manière aussi d'éclairer les paraboles. C'est de regarder dans quel contexte Jésus les a dit ou de se dire, qu'est-ce que ça veut dire par rapport à Jésus. C'est souvent une bonne clé. Le père Lagrange disait, expliquait en disant que le but de la parabole était de frapper l'imagination, de piquer la curiosité, de faire réfléchir et travailler l'auditeur pour arriver au sens de telle sorte que la leçon soit plus profondément gravée dans l'esprit. Donc il y a cette volonté de un peu piquer pour que les gens cherchent, quoi. Cherchez et vous trouverez, ça reste une thématique de Jésus. Et quand les disciples lui demandent pourquoi leur parle-tu en parabole, il répond « À vous, il est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais ce n'est pas donné à ceux-là. » Donc on peut dire que les disciples, ils avaient reçu une forme de don du discernement spirituel. Du coup, c'était plus clair pour eux. Bon, aussi parce que probablement qu'ils avaient d'autres paroles de Jésus qui ne sont pas retranscrites dans les évangiles. Mais c'est aussi parce que comme ils adhéraient à Jésus et qu'ils le suivaient et qu'ils l'acceptaient comme tel, ça leur donnait aussi un éclairage sur les paraboles. Donc les paraboles ne se regardent pas de l'extérieur, mais de l'intérieur. Et finalement, nous sommes à peu près dans la situation comparable aux disciples. Voilà, on est sans cesse obligé de se demander qu'est-ce que Jésus a voulu dire, qu'est-ce que ça veut dire pour moi aujourd'hui, quelle est la fine pointe de ce qu'il veut dire, etc. Donc, il nous met toujours dans une démarche pour avancer, pour cheminer. Alors, il a non seulement enseigné, mais il a aussi agi. Et donc, on va parler des miracles qui sont donc avérés, qui sont aussi assez conséquents. Et les miracles sont de plusieurs natures. D'ailleurs, Jean, l'explicitera que ces miracles sont nombreux, parce que Jésus dit même « Amen, amen, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé de ces pains et que vous avez été rassasiés. » Voilà. Alors, il y a deux mots qui sont utilisés. Si je prends les synoptiques, c'est plutôt « dunamis », ça veut dire « marque de puissance ». Donc, c'est vraiment « miracle » plus dans le sens du mot « miracle », même « miracle » aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose qui dépasse le classique et donc qui montre la puissance de celui qui le fait. Et puis, il y a l'autre mot « semeia », « signe », qui est surtout utilisé chez Saint Jean, avec une forte référence à l'Ancien Testament. Voilà. Mais les deux mots désignent la même chose. Donc, c'est plutôt des signes, parce que c'est plutôt en rapport avec soit la puissance divine, donc ça, c'est le premier cas, mais dans l'autre cas, avec le signe, c'est plutôt comment ça nous dévoile le projet de Dieu. Donc, quelle est l'intention de Dieu. Donc, ce n'est pas juste un acte, c'est aussi quelle est l'intention et qu'est-ce que Dieu a voulu faire derrière. Alors, les miracles ont des formes très variées. Ils sont privés au public, ils sont par le toucher ou à distance. Il y a un certain nombre de miracles à distance. Ils sont en réponse à une demande ou à l'initiative de Jésus. Donc, on a à peu près tous les styles. On a beaucoup de miracles de guérison, mais on a aussi des miracles qui viennent bouleverser l'ordre de la nature, l'eau changée en vin, Cana, ou la Seine. La tempête apaisée, la multiplication des pains. Donc là, on est dans un registre plutôt on a l'impression que ça change l'ordre de la nature, mais le plus souvent, c'est des guérisons ou des résurrections, puisqu'on en a un certain nombre, il n'y a pas que Lazare. Donc là, on a toutes les maladies aveugles, enfin, ou les infirmités aveugles, boiteux, possédés, paralytiques, sourds, muets, épileptiques, morts, etc. Souvent, les guérisons portent sur les sens, nos sens, parce que c'est ce qui nous met en communication avec l'autre. Donc, quand on guérit un sourd muet, il va pouvoir retrouver une communication avec les autres hommes. Donc, c'est notre dimension de relationnel. Et aussi notre dimension relationnelle à Dieu. Par exemple, le redressement de la femme courbée, c'est symboliquement, elle se relève, elle se redresse. Et donc, elle retrouve sa dignité de fille de Dieu, ou la guérison de la lèpre qui permet non seulement qu'il y ait une maladie, mais qui aussi permet de retourner au temple, de prier Dieu et de pouvoir faire des sacrifices. Donc c'est aussi le renouer avec la dimension aussi relationnelle à Dieu et le culte. Alors parfois Jésus guérit d'une simple parole, mais souvent c'est associé, c'est-à-dire qu'on a à la fois la parole et le toucher. Et d'ailleurs on a aussi souvent des miracles qui répondent à des enseignements, donc qui sont aussi liés. Donc c'est important cette double dimension de parole et de geste, même si ce n'est pas systématique. Et puis on a même le geste inversé, le toucher inversé, puisque la femme hémorroïde, c'est elle qui touche le vêtement de Jésus, et c'est ça qui la guérit. Donc ce n'est pas Jésus qui la touche, c'est elle qui va toucher le vêtement de Jésus, et elle est guérie. Alors pour la guérison de l'aveugle de naissance, un des miracles importants, puisqu'il occupe une grande partie, il est décrit assez longuement. Jésus cracha à terre et avec la salive il fit de la boue, puis il appliqua la boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit « Va te laver à la piscine de Siloé ». C'est en Jean 9, 6, 7. Et Saint Irénée nous dit que celui qui nous a créés à l'origine vient accomplir une œuvre de recréation. Donc le Verbe achève en nous ce qui nous manque, il nous donne des yeux pour voir le Père. Donc c'est la dimension de retrouver la vue. Donc c'est pas neutre le nombre d'aveugles que Jésus a guéri. Mais aussi... il prend de la boue, donc c'est vraiment comme la création, il prend la salive et la boue, et donc il refait le geste de la création, finalement. Et puis, il lui dit, va te baigner à la piscine de Siloé, et donc on a aussi le bain, symbole du baptême, etc., et la recréation avec la purification. Voilà. Et donc, on a bien ce parallèle entre la création initiale et cette recréation dans les miracles, qui sont comme une petite anticipation du salut avant même la passion et la résurrection. Alors, le miracle, en général, demande la foi, mais plus encore, il la fait grandir. Alors, dans de nombreux miracles de Jésus, la guérison est liée à la foi. Ainsi, le centurion de Capharnaüm, par exemple, qui exprime sa foi en affirmant que Jésus est capable de guérir son serviteur sans même avoir besoin d'entrer dans sa maison. Vous savez, c'est le centurion qui dit « Moi, j'ai des soldats, je dis à l'un, fais ci, fais ça. Et donc, toi, tu peux guérir en disant juste une parole et tu n'as pas besoin de te déplacer. » Et donc Jésus lui-même admire cette foi, la foi de cet homme, et lui dit « Amen, je vous le déclare, chez personne en Israël, je n'ai trouvé une telle foi. » Et puis il le garantit cette foi par le miracle, en lui disant « Rentre chez toi, que tout se passe pour toi selon ta foi. » Et puis on a aussi les deux aveugles qui suivent Jésus. Je vous mets en temps un point d'exclamation, parce que c'est vrai qu'on a tellement l'habitude de lire les évangiles qu'on ne se repère même pas les choses un peu curieuses. C'est comme l'aveugle de Jéricho qui bondit, enlève son manteau, bondit et court vers Jésus. Pour un aveugle, ce n'est pas si simple que ça. Donc là, eux aussi, ils suivent Jésus. Donc on ne sait pas très bien comment ils font, mais voilà. C'est toujours intéressant d'essayer de visualiser les choses. C'est aussi très concret, les discours et les miracles de Jésus. Donc il les interroge précisément sur leur foi. « Croyez-vous que je peux faire cela ?» C'est sa première question. Et en fait, en grec, il faut savoir que le verbe « croire » et le mot « foi » ont la même racine. Donc en fait, c'est très très proche de « croyez-vous que... » Enfin, la foi et le « croire », ce mot « croire ». Et on peut penser aussi à Jésus à la synagogue de Nazareth, qui il ne fit pas beaucoup de miracles à cet endroit-là à cause de leur manque de foi. Donc là, à contrario, quand il n'y a pas la foi, c'est difficile de faire des miracles. Et pourtant, la foi permet de reconnaître le miracle. Donc toujours pour mon aveugle de naissance, c'est pas le mien, mais l'aveugle de naissance, c'est après le miracle que Jésus lui demande « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Donc en fait, il y a eu toute la guérison. C'est après qu'il lui dit, quand il est guéri, « Crois-tu au Fils de l'homme ?» Et l'ancien aveugle répond « Je crois, Seigneur. » Et on voit que les pharisiens, à ce moment-là, eux, refusent le miracle, ils n'ont pas la foi, ils ne voient pas. Et Jésus dit « Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. » Donc il joue aussi sur cette thématique du sens, qui est à la fois le sens physique et en même temps le sens spirituel, voir Dieu. Donc le miracle, il fait grandir la foi parce qu'il transforme dans le cœur de l'homme et le ramène à Dieu. Voilà. Et c'est ce qu'on dit à Cana, donc j'aurais pu faire un paragraphe entier sur Cana, hein, sur le fait, c'est le premier miracle, juste après le baptême et la tentation des airs, où on dit explicitement, enfin Jean dit, tel fut le commencement des signes que Jésus accomplit, c'était à Cana de Galilée, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Donc on va voir en quoi c'est cette histoire de gloire qui a trait au royaume. Et puis, ses disciples qui crurent en lui, donc c'est bien ça qui fait grandir la foi des disciples. Alors, qu'est-ce que Jésus annonce ? Donc, il annonce le royaume de Dieu. Alors, c'est ce qu'il dit tout de suite, Marc 1, donc on est tout début de l'évangile. « Les temps sont accomplis, le règne de Dieu est tout proche, convertissez-vous et croyez à l'évangile. » Alors, ce que Jésus annonce dès le tout début de sa vie publique, c'est le royaume de Dieu, et ça dure tout le temps. C'est comme s'il y avait une brèche dans le temps, c'est-à-dire qu'on inaugure un temps nouveau. Voilà, le règne de Dieu est tout proche. Donc c'est vraiment cette proximité qui l'annonce. Alors on a plusieurs fois l'expression « règne » ou « royaume de Dieu ». Les deux mots sont utilisés. En tout cas, 99 fois, je vous ai mis plein de statistiques. 99 fois dans les trois évangiles synoptiques. Et 90 d'entre elles correspondent à des paroles prononcées par Jésus. Donc c'est vraiment ce que Jésus a dit, redit, et tout le temps de sa prédication avant la passion. Alors on a deux formulations au-delà du règne et royaume. Mais règne et royaume, c'est juste le même mot, décliné différemment. Mais on a le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Alors en fait, ils signifient la même chose. C'est Matthieu qui utilise la deuxième expression « royaume des cieux ». En grande conformité avec ce que je vous disais tout à l'heure pour les Juifs, c'est-à-dire qu'on n'emploie pas le mot de Dieu à tout bout de champ. Et donc, royaume des cieux dit bien que c'est le royaume de Dieu, mais en voilant évite de prononcer le mot Dieu. Voilà. Alors, le royaume, il signifie plusieurs choses. Il signifie un pouvoir royal, un royaume, c'est ça. Il signifie aussi un territoire soumis à l'autorité d'un roi, et donc quelque part des sujets. Il signifie aussi, donc là c'est plutôt une transcription du règne du Messie, donc la personne attendue, donc de celui de l'envoyé de Dieu. Alors Jésus, il n'a pas donné une définition, de toute façon il a donné des définitions de rien du tout, il a parlé en parabole, il a expliqué des choses, il nous laisse cheminer aussi. Donc il a parlé en parabole sur le royaume de Dieu, puisque l'essentiel des paraboles porte sur le royaume de Dieu. Alors on peut les classer en trois groupes. Un premier groupe de neuf paraboles qui est plutôt sur ce que c'est que ce royaume. Donc là, on va retrouver le semeur et la semence, l'ivraie et le froment, le levain, la farine, la fleur de farine, la semence qui croît secrètement, la graine de moutarde qui devient l'arbre le plus grand où les oiseaux peuvent nicher, le levain, le trésor caché, la perle de grand prix, et puis le filet qui rassemble toutes sortes de poissons. Donc ce que disent toutes ces paraboles, je vous fais un résumé, mais chacune a sa pinpointe et pourrait être analysée séparément, mais c'est globalement que dans ce monde, la réalité est mêlée. On pense beaucoup à l'ivraie et le froment, mais c'est la même chose sur le filet qui rassemble toutes sortes de poissons. Hein. C'est un peu la même, c'est vraiment la même idée. Donc, dans le monde actuel, c'est mêlé, mais à la fois l'œuvre, on n'a pas l'impression, mais elle s'accomplit. Donc, le semeur et la semence, elle produit son fruit, la graine de moutarde, elle devient un arbre, etc. Et donc, ça s'accomplit à la fois de manière visible, mais aussi de manière invisible. Et puis, à la fin, il y a de toute façon, non pas une conversion automatique de tous, hein, mais un jugement et la séparation des bons avec les méchants. Donc, ça va vers une finalisation qui est le royaume instauré avec les justes. Alors, deuxième groupe de paraboles, il est un peu plus tard quand Jésus a quitté la Galilée et qu'il est vraiment les 6 mois qui sont avant la dernière Pâque. Et là, c'est plus focalisé sur... les sujets du royaume, c'est-à-dire le comportement de ceux qui cherchent et attendent le royaume des cieux. Donc là, je vous ai mis les références. Et on a beaucoup chez Saint-Luc. On a le bon samaritain, l'ami importun, le riche insensé, les serviteurs attendant le retour de leur maître, la porte étroite, la première place à table, le festin, la brebis perdue, la drachme perdue, le fils prodigue, l'économe infidèle, le riche et Lazare, les serviteurs inutiles, le juge inique, le pharisien républicain et les mines. C'est aussi la parabole des talents. C'est la même chose. C'est la même... parabole. Et donc là, on est plutôt sur quelle est la bonne attitude dans cette réalité mêlée de ce temps-ci pour préparer le royaume et finalement comment être le juste pour que le jugement nous soit du bon côté. Voilà. Et donc comment est-ce que Jésus nous éclaire là-dessus avec plein de représentations et puis on peut se projeter dans différents personnages, même dans ces paraboles, que l'on pense aux Samaritains ou au fils prodigue, bon, on peut se projeter sur plusieurs personnages. Et puis, le dernier groupe de paraboles, les 6, c'est plutôt sur le jugement. Et donc, qu'est-ce qui va se passer à la fin des temps et là, on est plutôt sur la dernière semaine. Et là, on a la parabole des 2 fils, les vignerons homicides, les noces du fils de roi, les 10 vierges et les talents, et le figuier. Voilà. Alors, les talents sont mis là, alors que les mines sont mis dans celle d'avant. C'est pratiquement la même parabole, sauf que dans les talents, il y a l'idée du retour à la fin et du retour du roi que les autres ne voulaient pas, etc. Donc du coup, c'est pas tout à fait les mêmes personnages. Voilà. Donc toutes ces paraboles, en fait, elles mentionnent le royaume et puis elles jouent un peu sur tous ces angles du royaume, c'est-à-dire l'ensemble, les personnes, les sujets, voilà, la Jérusalem céleste, enfin, voilà, c'est un peu tous ces aspects-là qui sont décrits à travers ces paraboles. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, le royaume, c'est d'abord une personne, c'est Jésus. Donc, Origène appelait Jésus le auto-basileia, c'est-à-dire le royaume en personne. Donc, le royaume, c'est pas d'abord un espace, un lieu, il n'est pas terrestre, parce qu'on sait que durant cette terre, c'est mêlé. Il n'est pas un espace de souveraineté comme les royaumes terrestres, c'est une réalité quand même spirituelle. Voilà. Et puis, parce que cette réalité spirituelle, elle est ancrée sur une personne qui est Jésus lui-même, qui est le royaume. Et finalement, tout le reste, les autres composantes, c'est-à-dire les sujets, même la Jérusalem céleste, s'organisent autour de Jésus. Donc c'est Jésus qui est le royaume, et puis le reste se décline autour de Jésus. Et donc, quand on parle du royaume de Dieu, en fait, on parle du Christ. Et donc Jésus est à la fois le guide les hommes, il est à la fois le chemin, mais il est aussi le point d'aboutissement du royaume, puisque c'est en lui que Dieu lui-même est présent parmi les hommes, dès maintenant et jusqu'à la fin des temps, et qu'il est la présence de Dieu. Voilà. Et donc ce royaume, c'est ce que je vous disais, c'est non seulement la personne du Christ, mais du coup les relations qui vont avec cette personne. Et donc, c'est évidemment les sujets. Et c'est ce qu'on voit dans la représentation de la Jérusalem céleste, où il y a l'agneau au centre. Elle est au ciel. Donc, c'est bien la dimension de... viendra du ciel. Donc, c'est bien la dimension du royaume de Dieu. Et puis, il y a les apôtres. Et voilà. Et donc, il y a toute l'Église, en fait. Donc, du coup, on est bien sur un collectif. Mais le centre, c'est l'agneau. Et donc, le royaume, c'est bien Jésus. Ce que dit Jésus aussi, c'est si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Et donc, là, il dit bien, voilà, le règne de Dieu est survenu. Donc, en moi, il y a le règne de Dieu. Et ce n'est pas juste parce que Jésus est physiquement là, mais c'est parce qu'il l'est aussi avec toute l'action du Saint-Esprit qui fait rayonner ce royaume en lui et par lui. Donc, le règne messianique qui est inauguré avec l'incarnation de Jésus, enfin, le début de la vie publique, en tout cas, plus manifestement, donc, c'est la fin de l'Ancienne Alliance. On rentre dans un nouvel royaume de Dieu, puisque Dieu s'est fait proche, plus que dans l'Ancien Testament, où on est où il parle par les prophètes, mais il n'est pas physiquement là. Et ça annonce aussi l'accomplissement des temps. Donc, on est aussi dans une dimension complètement eschatologique de la fin des temps. Voilà, et quand les disciples demandent quand est-ce que ça va arriver, Jésus explique, il prophétise le commencement des douleurs, la grande tribulation, avant que le Fils de l'homme se manifeste et que ce soit le jugement dernier. Quand le Fils de l'homme viendra dans la gloire et tous les anges avec lui, alors il siégera sur son trône de gloire, toutes les nations seront rassemblées devant lui, il séparera les hommes les uns des autres, comme le berger sépare les brebis des boucs. Donc on a bien le Fils de l'homme, enfin, c'est vraiment une explicitation très claire de ce qu'est le royaume, avec une communion de toute la création, puisqu'on a les anges aussi qui sont là, toutes les nations seront rassemblées devant lui, donc on est largement au-delà du peuple juif, on est sur toute l'humanité, et il y a cette notion de séparation, puisqu'il y a une notion de jugement, c'est pas quelque chose d'automatique le royaume de Dieu. Et donc la passion de Jésus, enfin la vie publique, mais la passion de Jésus plus précis, plus techniquement, enfin c'est le point d'aboutissement, accomplit les prophéties puisque c'est le début de ces derniers temps. Quand il parle, il prophétise le commencement des douleurs, bah quelque part avec la passion, ça a commencé les douleurs. Voilà, le retour du Christ à la fin des temps permet l'accomplissement dans le cosmos. Mais on n'a pas deux épisodes, on n'a pas d'abord Jésus qui vient, il se passe des choses, c'est le salut. Et puis après, bon, puis maintenant on attend, pause, et puis on reprend quand ce sera la fin des temps. Non, c'est l'un inclus dans l'autre, et finalement ça c'est comme si ça s'étirait dans le temps jusqu'à la fin des temps. Donc c'est la thématique, le royaume est déjà là et pas encore. Et pour que le royaume advienne, Jésus va chercher à ramener les cœurs au Père. Donc il y a les sujets. Et donc une grosse partie des discours de Jésus sont aussi sur ceux, donc on a vu dans les paraboles, mais au-delà des paraboles, je vais me focaliser un peu sur les béatitudes, qui sont un autre grand texte quand même qui n'est pas dans les paraboles et qui n'est pas neutre, qui occupe une place importante, qui est chez Matthieu et chez Luc, deux versions différentes. Et souvent, on peut se dire que c'est un discours moralisateur en disant bah, on prend le décalogue qui est pour l'Ancien Testament, et puis là, maintenant, c'est le règne de l'amour, et voilà. Mais en fait, Jésus, il n'a jamais, pas du tout fait présenter ça comme ça. Donc, il n'a pas l'intention d'abolir le décalogue, il le renforce, en fait. Et donc, c'est plutôt un élargissement, toujours, un accomplissement dans le sens de l'élargissement de l'Ancien Testament. Et du coup, c'est pas l'idée, c'est pas non plus d'élargir au sens de morale, c'est-à-dire je vous en demande plus. Il le fera à un autre endroit, on parlera un tout petit peu du sermon sur la montagne, mais c'est que il se place au centre. Et donc finalement, la nouvelle loi, elle est centrée sur Jésus. Voilà. Et quand vous lisez les béatitudes, bah, vous avez les références à le royaume des cieux est à eux, par exemple, qui est d'ailleurs au présent et pas au futur. Voilà. Et donc ils verront Dieu. Donc, c'est tout en rapport avec le royaume de Dieu. Donc, ce n'est pas juste « faites bien et puis comme ça, vous serez sauvés ». Ce n'est pas du tout ça le message. C'est imiter le Christ, soyez mes disciples et du coup, vous pourrez bénéficier du salut et être du bon côté lors du jugement. Donc, il qualifie les disciples, ceux qui ont suivi Jésus, qui constituent désormais sa famille. Donc, voilà, c'est comme des paradoxes. On a les critères du monde qui sont inversés. Donc, c'est en ce sens-là qu'on est déjà dans la perspective du royaume, qui est le point de vue de Dieu et non pas le point de vue des hommes. Voilà. Et donc, selon les critères du monde, on est pauvre et perdu. Et selon les critères des béatitudes et du royaume de Dieu, on est bien heureux et béni. Mais ça ne supprime pas la souffrance, mais ça permet de les traverser. On est exactement dans ce qu'on étudiera quand on étudiera la passion de Jésus. Et donc, on est déjà dans cette recréation aussi du monde dont on a déjà parlé, où l'homme est refait à l'image de Dieu. Il peut être à l'image de Dieu grâce à Jésus, à l'image de Jésus. Donc, la prédication du royaume, c'est jamais un simple enseignement, c'est un événement. Et là, on a toujours la thématique dans toute la vie publique, dans tout ce que fait Jésus et dans tout ce qu'est Jésus. C'est le faire et le dire sont ensemble. Et donc, il n'y a pas... Jésus a dit des choses, et puis par ailleurs, il est autre chose, ou il agit d'une autre façon. Non, c'est tout un, en fait. Et donc, c'est Jésus lui-même qui est l'événement. L'incarnation, d'ailleurs, c'est ce qu'on fait, c'est l'événement de l'incarnation. Et en même temps, c'est la parole qui se fait chair. Donc, on a bien la équivalence entre le discours et l'événement. Et donc, c'est en ça que le règne de Dieu s'approche, c'est que Jésus est là. Et en même temps, ces tribulations qu'il a annoncées, l'imitation de Jésus-Christ passe par la croix. Donc, si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Donc, pour déboucher sur la vie éternelle, la vie avec et en Jésus, il faut passer par être vraiment disciple de ce qui est de Jésus, et donc passer par ces tribulations qu'il a lui-même passées. Et comme dans les béatitudes, ça supprime pas la douleur, ça supprime pas le fait que ce sont des tribulations, mais ça permet de les traverser et pour un bien plus grand, pour rejoindre le royaume et Jésus. Alors, en dernier, je voulais mentionner, c'est qui ce Seigneur du royaume ? Donc, c'est qui ce Jésus qui est le Seigneur du royaume ? Et comment il se présente, en fait ? Comment il dit comment il est ? Donc, déjà, il y a la thématique, il est le nouveau Moïse, le vrai fils de Dieu, donc plus grand que Moïse, nouveau plus grand que Moïse. Alors déjà, le sermon de la montagne, il commence quand Jésus vit la foule, il gravit la montagne, il s'assit et ses disciples s'approchèrent. Alors, ouvrant la bouche, il se mit à les instruire. Donc la montagne, on sait que pour Moïse, dans l'Ancien Testament, c'était très important. C'était son lieu où il allait retrouver Dieu. C'est le lieu de la communication entre Dieu et les hommes. Et pour Jésus, il va souvent prier dans un lieu désert et souvent, on dit, sur la montagne. Donc c'est le lieu du face-à-face avec le Père, comme Moïse, mais dans une proportion bien, bien plus importante, puisque là, c'est le Fils de Dieu. Et donc, c'est aussi le lieu de son enseignement. Puisque cet enseignement, c'est pas pareil, il a sa vie au Père, à sa relation au Père, et puis par ailleurs, il enseigne des choses utiles pour nous. Non, c'est tout un, en fait. Et donc, c'est intéressant que le plus grand enseignement qu'on ait, il est sur la montagne, après qu'il ait prié son Père. Donc, seul le Fils de Dieu peut avoir l'autorité législative, et c'est ce que les grands prêtres refusent. Il se met à l'origine, et quand dans le sermon de la montagne, il dit « on vous a dit », parce que ce « on », c'est en fait quand même Moïse, donc c'est pas rien, c'est tout l'Ancien Testament. Et moi, je vous dis. Donc, il se positionne au-dessus du législateur qui est Moïse, donc plus grand que Moïse. Et il s'affirme avec autorité parce que, il se positionne du côté de Dieu, il est du côté de Dieu. Et c'est la foule le sent bien, puisque Matthieu m'en dit explicitement que le peuple était effrayé. Alors, par sa façon d'enseigner, la traduction a changé, là, j'ai vu dans la Bible, j'ai plusieurs versions. Donc, il y a une version qui est dit plutôt effrayé, et l'autre frappé de stupeur. Bon, moi, je trouve que la notion d'effrayé, il y a un peu quand même le sentiment devant quelque chose. Alors, frappé de stupeur aussi, mais ça peut être pour d'autres raisons. Devant c'est l'inouï de Dieu, c'est le tout autre qui est là. Et du coup, ils sont, un peu comme la crainte de Dieu. Ce mot qui est un peu compliqué. Et Jésus donc n'enseigne pas comme les rabbins, mais en homme qui a autorité, c'est mentionné dans Matthieu, Marc et Luc, et c'est pas juste parce qu'il est un bon maître spirituel qui dit bien les choses, non, qui sait bien. Non, c'est parce qu'il est en fait, il se positionne comme Dieu, donc il est au niveau du législateur suprême, et donc au niveau du Dieu créateur. Et puis, il lit cet enseignement nouveau donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils y obéissent. Donc, il y a aussi cette dimension de Jésus qui guérit, qui manifeste aussi cette autorité du Christ, en parallèle de celle que dégage sa parole, et qui en montre la portée. Donc, ils s'éclairent mutuellement. Alors, le mot « exousia » est utilisé à la fois pour l'enseignement et pour la guérison à la synagogue de Capharnaüm. Donc on utilise le même mot pour dire à la fois l'enseignement qui sort de Jésus et la guérison qui est aussi la force qui sort de Jésus. Alors prenons l'histoire du paralytique que ses amis descendent par le toit, qu'on a lu pendant l'adoration. Jésus ne prononce pas une parole de guérison. Donc j'imagine que s'ils ont déplacé les tuiles du toit, descendu le brancard, etc., c'est pour qu'ils le guérissent, hein, que les choses sont un peu clair. Ils n'ont même pas besoin de le dire, je pense. Mais en fait, Jésus, il ne dit pas ça. Il dit au malade, mon fils, tes fils sont pardonnés. Tes péchés sont pardonnés, pardon. Or, en fait, remettre les péchés, c'est bien uniquement l'affaire de Dieu. Et les scribes qui sont dans le coin, les pharisiens et tout ça, ils disent, attends, qui est-il celui-là pour faire ce que seul Dieu peut faire? Et donc, Jésus entend bien leur objection. Et donc, il explique que s'il est capable de guérir ce paralysé, ça veut bien dire qu'il est aussi capable de guérir les péchés et donc qu'il est bien l'égal de Dieu. Voilà. Et donc, il commence par guérir les péchés avant, quelque part, d'authentifier le fait qu'il a le droit de guérir les péchés en guérissant le paralysé. Et donc, c'est intéressant parce que c'est dans l'autre sens de ce qu'on aurait attendu. Et c'est bien pour montrer que ce qui est plus important, c'est de guérir les péchés et c'est ça son pouvoir divin. Et non pas juste de faire des miracles. Voilà, et c'est ce qu'on va lui reprocher au moment de la Passion, donc ça reviendra à ce moment-là. Alors les miracles, ils expriment aussi le pouvoir de Jésus sur la création et sur la vie, plus exactement. Donc c'est pas seulement des signes que Jésus vient de Dieu. On peut penser à Élisée dans l'Ancien Testament, qui a fait des guérisons, plutôt pas mal d'ailleurs. Donc du coup, il y en a d'autres qui peuvent le faire de la part de Dieu. Mais c'est qu'elles sont l'œuvre de Dieu lui-même, puisque là, le Père agit à travers lui et il se place toujours en tant que fils. Et on voit bien dans la discussion avec les pharisiens juste après la guérison du paralytique de Bethesda, de la piscine de Bethesda, mon Père jusqu'à présent est à l'œuvre et moi aussi je suis à l'œuvre. Donc il fait l'œuvre du Père, il est le bras armé du Père. Donc c'est bien le pouvoir de guérir et bien le propre de Dieu qui a créé l'homme, lui a donné la vie et garde la totale maîtrise sur la vie et la santé de ses créatures. Et les guérisons qui sont mises explicitement aussi dans le cadre de la lutte contre le démon montrent bien aussi cette dimension de Dieu et cette puissance de vie que Jésus reçoit de son Père, et qui se manifeste notamment, tout particulièrement, évidemment, on pense à l'épisode de la résurrection de Lazare. Et pour la résurrection de Lazare, Jésus, il commence par rendre grâce à son Père. En apprenant cela, Jésus dit « Cette maladie ne conduit pas à la mort, elle est pour la gloire de Dieu, afin que par elle, le Fils de Dieu soit glorifié. » Donc c'est bien une manifestation du fait que Jésus est vrai Dieu, il est le Fils de Dieu, et qui peut donc faire les œuvres de Dieu directement. Et puis juste après, il dit « Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. » En fait, Lazare, il n'est pas encore sorti du tombeau, hein, donc il est en avance de phase. Mais parce qu'il sait déjà, et il le manifeste aussi. C'est-à-dire que avant même que ce soit fait, il manifeste à ceux qui l'écoutent, Marthe, Marie, mais tous ceux qui étaient là, que c'est le Fils du Père fait les œuvres de son Père, fait les œuvres, oui, du Père, et il est exaucé parce qu'il obéit et qu'il agit en tant que Fils. Voilà. Et donc ces miracles, ils rendent gloire à Dieu, ils portent témoignage de la bonté du Père et de sa capacité de recréation et de s'occuper de sa création. Voilà, et pas nous laisser là où on en est. Et donc, à travers les miracles, le Fils honore ton Père. Et les guérisons et les résurrections opérées par Jésus sont comme un prolongement de l'incarnation, elles sont une recréation. Et comme à la création, la parole agit et elle est performatrice. Donc, et le fait qu'ils disent même juste, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé, le miracle, il va prononcer les paroles, mais le miracle peut avoir lieu. Alors, l'autre présentation que Jésus fait de lui, c'est le Fils de l'homme, qui est un titre aussi important. Donc, c'est pour ça que j'en ai consacré un assez long paragraphe. Donc on a quand même le titre de Dieu qui apparaît 70 fois dans le Nouveau Testament, donc c'est pas rien, mais en fait il est quasiment jamais prononcé par Jésus, il est prononcé par tout le monde, Jean-Baptiste, Satan, les possédés, les disciples, Pierre, Nathanaël, Marc, le grand prêtre, le centurion au pied de la croix, ou même les évangélistes, quand on dit commençant l'évangile de Jésus-Christ, fils de Dieu, mais en fait Jésus il l'emploie très rarement. La seule fois où vraiment explicite, c'est... En fait, il rapporte ce que les autres disent de lui. Donc, on est toujours dans cette même thématique. Or, celui que le Père a consacré et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc, c'est comme s'il se mettait à la place des autres qui disent, il est le Fils, enfin, que lui dit, je suis le Fils de Dieu. Mais en fait, ce qu'il utilise comme titre le plus fréquemment, c'est Fils de l'homme. Excusez-moi pour la faute d'orthographe. Dans le Nouveau Testament, on trouve cette expression que dans la bouche de Jésus, et c'est intéressant, après les évangiles, on ne va pas la retrouver, c'est-à-dire qu'elle n'a pas été reprise, tellement c'est juste les mots de Jésus, en fait, et donc personne d'autre quasiment peut les utiliser à sa place, quoi. Enfin, voilà, donc il y a comme cette interdiction. Le seul qui l'utilise, c'est Étienne, qui reprend en fait la phrase « Vous verrez le Fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir parmi les nuées du ciel que Jésus a dit dans Marc ». Et du coup, Étienne redit la même chose, mais parce qu'il fait référence à cette expression. Voilà. Alors, Fils de l'homme, on peut dire d'abord, en hébreu araméen, ça veut dire d'abord homme, hein, Fils de l'homme, Fils d'homme. Voilà, c'est pas plus qu'un homme. Cependant, il y met un autre aspect. Et finalement, ça décrit peut-être même mieux que fils de Dieu, le fait qu'il est vrai homme et vrai Dieu. Entre parenthèses, le terme fils de Dieu était employé dans l'Ancien Testament parfois pour dire nous sommes les fils de Dieu. Donc du coup, c'était aussi un emploi assez générique en tant que peuple, en tant qu'être humain. On est les fils de Dieu parce qu'on est des créatures de Dieu. Donc à la limite, en utilisant le fils de l'homme, c'est l'inverse, c'est-à-dire ça dit plutôt sa divinité que son humanité. Voilà, alors le premier mention qu'on voit, c'est dans l'évangile de Saint Matthieu, c'est les renards ont des cavernes et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le fils de l'homme n'a pas où reposer la tête. Donc là, on est vraiment dans le profond abaissement et la profonde pauvreté de Jésus, qui s'est fait homme et pas le plus grand des hommes, mais qui est voilà, dans des considérations précaires. Et si on regarde dans Saint Jean, pareil, début de Saint Jean, vous verrez le ciel ouvert et les anges de Dieu montant et descendant sur le Fils de l'homme. Donc là, sur terre même déjà, Jésus, il est dans la gloire de cette appellation. Et donc, Fils de l'homme, il a ces deux dimensions, très humaines et très divines. Voilà. C'est aussi ce qui est montré dans la discussion autour du sabbat. Voilà pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Et il utilise le terme le fils de l'homme, il aurait pu dire je sais pas quoi d'autre, hein, mais non, il l'utilise dans cette expression-là parce que maître du sabbat, c'est vraiment Dieu qui est maître du sabbat. Voilà, donc toute la grandeur de Jésus qui interprète la loi de sa pleine autorité, parce qu'il est lui-même le Verbe de Dieu, transparaît ici. Donc dans son abaissement, le Seigneur Jésus était le fils de l'homme, mais il est aussi maintenant dans la gloire à la droite de Dieu, et le sera dans l'avenir quand il apparaîtra en toute puissance. Donc il l'est déjà, et encore plus à la fin des temps. Alors quand même, ça fait référence au livre de Daniel, qui emploie le mot « fils d'homme ». Donc, si on reprend la vision de Daniel, il voit de loin le vrai maître du monde sous la forme d'un vieillard. « Et je voyais venir avec les nuées du ciel comme un fils d'homme. Il parvint jusqu'au vieillard, on le fit avancer devant lui, et il lui fut donné domination, gloire et royauté. Tous les peuples, toutes les nations et toutes les langues le serviront. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera pas, et sa royauté, une royauté qui ne sera pas détruite. » Donc, ce fils d'homme... manifestement, il a tous les pouvoirs et donc il est voilà, le père lui confie tout, voilà, et la domination est une domination éternelle. Donc on est vraiment dans la dimension tout à fait divine et tout à fait glorieuse de Jésus. Voilà, il vient de Dieu, il est de Dieu. Alors ensuite, je vais parler un petit peu, parce que le temps avance, de « je suis ». Donc, le Fils de l'homme, c'est surtout employé dans les synoptiques. Dans l'évangile de Jean, il utilise plutôt l'expression « je suis ». Donc, c'est une autre façon de montrer aussi la divinité de sa divinité. Si vous n'y croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Un peu plus tard, quand il parle de la croix, quand vous aurez levé le Fils de l'homme, alors vous comprendrez que moi, je suis. Et enfin, avant qu'Abraham existait, moi, je suis. Voilà. Alors, on pourrait penser que les deux premières phrases, on peut dire oui, mais c'est qui je suis. Voilà, je suis qui je suis. Mais dans la dernière phrase, avant qu'Abraham, et en plus avec la référence à Abraham, ait existé, moi, je suis. Là, on est vraiment dans la reprise du buisson ardent. Le je suis pris absolument, qui est la façon dont Dieu s'est désigné dans le buisson ardent à Moïse. Voilà. Et donc, quand il dit je suis, ça relie évidemment à cet épisode-là et il le rapporte à lui-même. Voilà. À d'autres endroits dans Saint Jean, il utilise aussi le « je suis », mais il met un attribut derrière. « Je suis le pain de vie, la lumière du monde, la porte, le bon pasteur, la résurrection et la vie, le chemin, la vérité et la vie, et la vraie vigne. » Et en fait, ces images, c'est des variations sur ce thème de « je suis ». « Je suis celui qui donne la vie, et la vie en abondance, celui qui peut donner le salut, celui qui est l'amour, etc. » Et donc, on est vraiment sur cette concentration de l'être même de Jésus, Fils de Dieu et vrai homme. Et puis la dernière image, c'est le Jésus qui se présente comme un serviteur souffrant. Donc déjà aux noces de Cana, il anticipe quelque part l'heure de sa passion, puisqu'il dit C'était le troisième jour, donc déjà ça fait penser un peu à la résurrection. Mais à cette, dans le dialogue entre Jésus et Marie, il évoque son heure en disant « mon heure n'est pas venue ». Voilà. Mais quelque part, il l'anticipe puisqu'il change le vin en le haut en vin. Et donc, quelque part, il l'anticipe un peu comme avant. Et pareil, on pourrait dire, pour la multiplication des pains ou la résurrection de Lazare, c'est comme des anticipations de cette passion et de cette résurrection. Et puis, il y a aussi toute la façon dont Jésus, avant de faire certains miracles, a soupiré comme s'il entrait déjà dans la souffrance de la passion. Voilà, quand il dit « puis les yeux levés au ciel », il soupira. Et ce n'est pas un soupira juste, un petit soupir en passant. Hein, c'est vraiment, il soupira, c'est un mot fort là, qui est de porter voilà, le poids. Et il lui dit « Ephphatha », c'est-à-dire « ouvre-toi ». Voilà, où Jésus soupira au plus profond de lui-même. Et donc, c'est un peu comme si pendant qu'il fait ses miracles, et donc il anticipe quelque part la gloire de Dieu et le salut qui seront après la croix et la résurrection. En fait, il anticipe ça et c'est comme une forme de petite passion. Voilà. Alors, il y a aussi Jésus qui annonce trois fois explicitement sa mort et sa résurrection. On en a parlé déjà la dernière fois. Je ne vous relis pas tous les textes, mais vous avez toutes les références. Comme ça, c'est parfait. Et donc, dans ce texte, voilà, il se moque de lui, le flagelle, le crucifie, souffrir beaucoup de la part des anciens, livré, condamnera aux morts. Voilà, tous ces termes-là, c'est vraiment ça. Jésus s'identifie avec le serviteur souffrant et mourant des chants du prophète Isaïe. Et puis on a la phrase « Le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude ». Donc on est vraiment dans cette thématique du serviteur qui donne sa vie à la place des autres. Voilà. Et donc on a bien cette unité de la passion et de l'exaltation, de l'abaissement et de la gloire dans ces différentes présentations que Jésus a de lui-même. Puisqu'en fait il se présente à la fois comme... le Fils de l'homme, donc celui qui va être dans la gloire, et comme le présente Daniel, qui a reçu toute domination et qui va juger le monde entier, et en même temps comme le serviteur souffrant. Voilà, et donc on est sur toutes les dimensions. Et ce que veut nous montrer Jésus, c'est que sa seigneurie, sa façon d'être seigneur de ce royaume, c'est de servir, voilà, et que de donner sa vie et de servir. Voilà. Et donc, il nous dit que ce n'est pas un royaume comme les autres, un royaume terrestre, un royaume classique. C'est un royaume, royaume de Dieu où c'est le service qui donne son sens et qui permet d'être le Seigneur. Et dans la passion et dans la mort, la vie du Fils de l'homme devient pleinement existence pour, c'est-à-dire qu'il est le libérateur et le sauveur pour la multitude, pour toute l'humanité. Et par la croix, par son don de sa vie, c'est le Seigneur du royaume qui nous montre le chemin. Voilà, donc en fait, ce que ça nous dit, c'est que ce royaume, il s'est approché de nous et de nous aussi aujourd'hui, puisque Dieu est venu parmi nous et qu'il est parmi nous, et que par son enseignement et par ses actes, il nous annonce le royaume, et non seulement le royaume au sens un peu de destination, mais aussi lui qui est le royaume et qui nous conduit au royaume. Quand il dit « moi je suis le chemin, la vérité et la vie », il est à la fois le chemin, celui qui nous permet d'avancer, et puis la destination, si je puis dire, puisqu'il est le royaume. Et c'est ce qu'il dit quand il dit « personne ne va vers le Père sans passer par moi ». Voilà, aller vers le Père et vers Jésus. Et donc, avec ces enseignements et ces miracles qui sont toujours à méditer et à relire, et bien on peut se laisser approcher par Jésus. Je pense que c'est d'abord la première chose à faire. C'est un peu comme le centurion. Jamais un homme n'a parlé de la sorte. Je pense que c'est toujours un peu intéressant de se renouveler l'émerveillement sur ce que dit Jésus et de ne pas, pas être tout de suite dans « qu'est-ce que j'en fais ?» mais juste de le recevoir, d'essayer d'imaginer. Toujours très beau d'essayer d'imaginer les scènes qui nous donnent, parce qu'elles sont souvent très visuelles. Pour se laisser approcher par Jésus avant de pouvoir l'approcher, en fait. Voilà. Et de répondre à la question qui traverse tout l'évangile de Marc, mais qui est-il donc ? Voilà. Et ce n'est pas du passé, c'est de l'aujourd'hui. Et on n'est pas orphelin. Et c'est pour ça que la prochaine fois, on va regarder comment il a fait le cadeau à travers les apôtres et la constitution de l'Église pour qu'aujourd'hui, le royaume soit toujours aussi tout proche de nous.